Côte d'Israël, la voix d'Israël émetteur de Jérusalem. Bonjour et shalom. Le journal accompagné vous est présenté par Hélène Paragan. L'invité de ce journal est un homme qui est deux fois à l'honneur ce mois puisqu'il vient de recevoir à Paris le prix de la Fondation de la vocation juive pour l'éducation et que dans 10 jours, il recevra le prix du président de la Knesset pour son apport aux droits de l'homme et au peuple juif. Un prix qu'il partage d'ailleurs avec notre confrère David Kataribas. Monsieur le rabbin Léon Ashkenazi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en fait plus connu sous votre totem Manitou. Alors comment est-ce de vivre avec une telle étiquette? Car si je me réfère au dictionnaire, Manitou représente dans certaines peuplades indiennes l'esprit du bien ou du mal, et par extension dans le monde moderne un personnage important et puissant. Est-ce difficile, Manitou, d'être une sorte de gourou pour des milliers de jeunes et de moins jeunes?
Vous savez, après tant d'années, on finit par s'habituer. Et il est évident qu'au début, c'était assez bizarre. En fait, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un totem scout. Et je me suis toujours demandé pourquoi un phénomène aussi particulier, aussi ponctuel qu'une totémisation scout, d'ailleurs ce nom m'a été donné déjà avant la guerre mondiale, dans le mouvement des éclaireurs, a pu s'attacher à ma personne. Ça vient peut-être de ce que les premières années de mon militantisme d'enseignement et d'éducation se sont passées en milieu éclaireur, en particulier à l'école d'Orsay, et que par la suite, lorsque j'étais un peu plus connu dans le monde extérieur, on me connaissait sous ce totem de Manitou. Vous savez, il m'arrive depuis quelques années de recevoir à Jérusalem des lettres avec comme adresse Arabe Manitou, Jérusalem, et ça arrive. Il doit y avoir des francophones à la poste.
Et ça, c'est sûr. Alors, quelle est la recette de ce succès qui, vous me l'avez avoué, vous déroute tant, vous intrigue même?
Eh bien, écoutez, je suis peut-être le seul à ne pas pouvoir comprendre, puisque, comme il est arrivé souvent de le dire, je suis le seul à n'avoir jamais écouté en direct mon propre enseignement. Et je ne sais pas, j'ai interrogé beaucoup d'amis, j'ai peut-être une explication possible, c'est que je fais partie de ceux qui croient vraiment dans ce qu'ils enseignent et que ça se ressent. Et peut-être aussi y a-t-il des raisons objectives, c'est l'époque où il fallait passer d'une sorte de préhistoire dans ce qu'a été l'éducation dans les communautés juives avant la guerre mondiale et ce qu'elle est maintenant depuis, et que j'ai été un de ceux à travers qui cette charnière s'est forgé. Et cela a fini par se savoir.
Et votre enseignement a évolué de la même façon que l'histoire?
Oui, je pense qu'il y a dans ma vie 3 périodes à ce sujet. La période d'avant la guerre, où je vis en Algérie. Et ensuite, la période de la guerre que j'ai faite en France. Et la période d'après la guerre, une vingtaine d'années, où j'ai milité dans la communauté juive en France. Et puis la 3e période, c'est ma période israélienne, et qui dure déjà depuis plus de 20 ans. Et c'est au moment de la guerre de 6 jours que tout un faisceau de mise au point, de cristallisation, de, je n'ose pas dire de conviction, on n'a jamais de conviction irréversible, en tout cas ça ne fait pas sérieux, se sont en tout cas amalgamés. Et la première partie de ma vie, j'ai vécu comme un juif de diaspora, dans l'espérance messianique du retour. Dans la deuxième partie de ma vie, je vis comme un Israélien déjà revenu. Si j'ose dire, je vis ce thème, le juif errant est arrivé. C'est le commencement d'une histoire pas simple, ce n'est pas un aboutissement, un point. Et je peux dire, oui, que j'ai vécu cette mutation d'identité qui est le propre de la génération juive de notre temps.
Eh bien, Manitou, nous continuerons ce dialogue dans quelques instants après les informations de la mi-journée que nous présente Bernard Barnier.
Nelson Mandela va être libéré sans condition. Le président sud-africain Frédéric de Klerk l'a déclaré ce matin, mais a-t-il ajouté, un court laps de temps supplémentaire est inévitable pour choisir la date de sa sortie de prison. D'autres mesures révolutionnaires et immédiates, celles-là annoncées par M. de Klerk, l'ANC, le mouvement nationaliste noir dont M. Mandela est le chef historique, a de nouveau une existence légale. Pareil pour le PAC, le Congrès panafricain et le Parti communiste. Et puis, levée de la quasi-interdiction prise dans le cadre de l'état d'urgence son encontre de 33 organisations anti-apartheid, dont le Front démocratique uni, l'UDF, considéré comme la branche interne de l'ANC. De plus, toutes les personnes emprisonnées pour leur simple appartenance à l'ANC, au PAC et au PC seront libérées et les restrictions aux libertés de 374 opposants seront supprimées. La censure est abolie en tant que telle, mais certaines restrictions à la liberté de la presse sont maintenues et les exécutions capitales sont suspendues. Il reste toutefois deux grands mais. L'apartheid continue d'exister et l'état d'urgence est maintenu pour l'instant. Le président Bush exigera une réduction pouvant aller jusqu'à 10% de l'aide consentie à Israël, à l'Égypte et à d'autres pays, affirme un haut fonctionnaire à Washington. Sur un ton irrité, ce fonctionnaire a déclaré à l'agence Reuters « Surtout qu'on ne nous dise pas qu'une coupe de 5% causerait du tort à l'économie israélienne, 150 millions de dollars sur 3 milliards, ce n'est quand même pas la fin du monde », a-t-il dit. 11 Palestiniens ont été tués par l'armée en janvier. C'est le chiffre le plus bas pour un seul mois depuis le début de l'intifada. Toujours en janvier, 9 Palestiniens ont été abattus par leurs concitoyens qui les soupçonnaient de collaborer avec les autorités. À Gaza, hier soir, un soldat a été légèrement blessé par un engin artisanal lancé contre un poste de l'armée. L'assaillant, grièvement blessé, est à l'hôpital. À Naplouse, un soldat a été atteint par une pierre et 2 habitants de la ville ont été blessés par balle. Alia, peut-on déjà parler d'un pont aérien entre l'Europe de l'Est et Israël? Peut-être pas encore, mais les vols s'étoffent alors que les files d'attente s'allongent à Moscou, à Leningrad, à Kiev. Raphaël Sidor.
L'agence juive, en effet, multiplie les vols au départ de Budapest pour réduire l'attente des immigrants qui arrivent tous les jours en Hongrie. Deux nouveaux vols vont s'ajouter au début de la semaine prochaine avec, pour la première fois à bord des avions, des représentants du ministère de l'Intégration et du département de l'Alia de l'agence juive. Ils seront là pour accomplir en cours de route au moins une partie des formalités jusqu'ici effectuées à l'arrivée. Les contacts se poursuivent entre-temps avec des compagnies aériennes d'Europe orientale. Malev, la compagnie hongroise, est prête à amener chaque jour des centaines d'immigrants, mais elle doit d'abord recevoir le feu vert de Moscou. Et pour le moment, Moscou se fait tirer l'oreille parce qu'elle considère de tels vols comme une sorte de liaison directe entre l'URSS et Israël, liaison à laquelle elle s'oppose. Pourtant, hier soir, Radio Moscou déclarait que la politique de libre émigration pour tous les citoyens de l'URSS, y compris les juifs, était irréversible et de qualifier de tempête artificielle les critiques qui s'élèvent à ce propos dans le monde arabe. Même si 40 000 juifs s'installent en Israël cette année, a dit le commentateur des émissions en hébreu de Radio Moscou, même alors, Tsahal ne s'en trouvera pas renforcé et les territoires ne seront pas envahis par de nouvelles implantations. Tout cela, non sans rappeler la ferme hostilité du Kremlin à l'installation des immigrants dans les territoires. Dans le monde arabe, on en continue pas moins à s'émouvoir. Le roi Hassan II du Maroc a vigoureusement condamné à son tour, au nom de tous les chefs d'État arabes, l'immigration des juifs soviétiques en Israël. Et à Bagdad, la commission parlementaire du Conseil de coopération arabe, Irak, Égypte, Jordanie, Nord-Yémen, a appelé à un sommet arabe extraordinaire consacré à l'immigration des juifs soviétiques vers Israël. Plus particulièrement, je cite, « aux moyens à mettre en œuvre pour freiner cette immigration ».
Mercredi 7 février, la réunion du comité central du Likoud, la tension sera à son comble au parc des expositions à Tel Aviv où sont convoqués les 3000 membres du comité central du Likoud. Déjà la tension est très forte avec l'affaire des invitations. Alors, Nicolas Rosenbaum, va-t-on vers l'explosion?
La veille du divorce, c'est le terme qui est utilisé par un grand quotidien pour qualifier l'ambiance qui règne au sein du Likoud quelques jours avant la réunion du 7 février. Le Premier ministre, lui, a utilisé une autre image. C'est un cauchemar, dit Yitzhak Shamir. Et il faut y mettre fin. Les derniers épisodes de ce feuilleton à rebondissements multiples, Arik Sharon convoque les 3000 délégués, mais l'invitation qu'il envoie omet tout simplement le discours politique que doit prononcer le Premier ministre. Monsieur Shamir rétorque en envoyant sa propre invitation, et là bien sûr, l'ordre du jour ne comporte qu'un seul point, son discours et le vote de confiance qu'il demande au comité. Mais voilà que Monsieur Sharon contre-attaque, il se propose de réunir les délégués non plus au parc des expositions, mais au stade de basketball de Yad Eliyahu. Le conseil juridique du Likoud souligne que seul le secrétariat du parti peut décider du lieu de la réunion, mais que l'ordre du jour est décidé par le président du comité central, autrement dit, Monsieur Sharon en personne. Et puis souligne le conseil juridique, seuls les délégués dont les noms figurent sur la liste officielle seront admis le soir de la réunion. Dans l'entourage de M. Shamir, on indique que le Premier ministre n'a pas l'intention de limoger Ariel Sharon. Il ne faut pas mélanger les affaires du parti et celles du gouvernement, dit-on. Mais on souligne que ce que fait M. Sharon en menant une guerre personnelle contre Yitzhak Shamir, c'est provoquer la scission au sein du Likoud. Réaction du ministre de l'Industrie et du Commerce, on essaie de m'intimider, mais je n'ai pas peur. Si le camp Chamira-Rens veut empêcher que les débats puissent avoir lieu dans le bon ordre, je ne les laisserai pas faire. Alors le rendez-vous est fixé pour mercredi prochain, et si d'ici là aucun compromis n'est trouvé, l'ambiance risque d'être très chaude.
Le cessez-le-feu n'a pas tenu au Liban. Les affrontements interchrétiens ont repris ce matin, notamment au canon de char. En 36 heures de combat, avant la trêve, 77 chrétiens des deux bords ont été tués, près de 300 blessés. Et je viens tout juste d'apprendre que l'armée du général Aouna a lancé une offensive de grande envergure contre le QG des milices des forces libanaises. À Bucarest, le tribunal militaire a entendu ce matin le réquisitoire et les plaidoiries dans le premier procès public de quatre dignitaires de l'ancien régime. Le verdict pourrait être prononcé encore aujourd'hui. Sur le plan politique, le Conseil du Front de Salut National a renoncé au monopole de la gestion des affaires. Un Conseil d'Union Nationale a été mis sur pied avec la participation des 29 partis présents à la table ronde. Il détiendra le pouvoir exécutif et législatif jusqu'aux élections de mai prochain. À Budapest, ouverture hier de discussion entre la Hongrie et l'URSS sur les modalités et le calendrier du retrait total des troupes soviétiques. L'armée rouge a 52 000 soldats sur le sol hongrois. En Bulgarie, le gouvernement Atanasov a démissionné pour permettre la formation d'un gouvernement sur une large base nationale. Le congrès du PC a adopté un manifeste pour un socialisme démocratique. Le PC renonce au centralisme, désormais plus de référence au léninisme. Et sur le plan économique, la Bulgarie opte pour une économie de marché, mais l'État conserve cependant un rôle régulateur. USA, Nicaragua, c'est peut-être la détente. Le président Daniel Ortega s'est déclaré prêt à la normalisation des relations avec Washington. Le secrétaire d'État James Baker avait auparavant évoqué une possible amélioration des relations bilatérales si les élections du 25 février sont libres et si le Nicaragua cesse d'aider les guérillas marxistes d'Amérique latine. Une délégation angolaise en Israël au mois de mars, ce sera pour parler coopération, essentiellement dans les domaines de la santé et de l'agriculture. Une nouvelle unité antidrogue de la police fonctionne depuis hier sur la frontière libanaise. L'unité précédente avait été dissoute. Son commandant avait été pris en flagrant délit de trafic de stupéfiants. Des dizaines de cultivateurs israéliens en révolte. Ils ont créé des associations pour l'exportation de leurs produits. C'est illégal. Agrexco détient le monopole. Le ministre de tutelle leur a fait savoir qu'ils n'obtiendront pas de licence d'exportation. Les sports en tennis à Buenos Aires. Israël joue contre l'Argentine sur terre battue dans le groupe mondial de la Coupe Davis. Gilad Blum contre Alberto Mancini, puis Amos Mansdorf contre Martin Haite. À Perth, l'Australie et la France sont à égalité 1-1. Le Comte a battu Cahill en 3-7 et Noah s'est incliné devant Mazur en 5 manches. La Nouvelle-Zélande mène devant la Yougoslavie 2-1. Et en athlétisme, la fin d'une bien belle carrière, Sébastien Coe raccroche. Il a renoncé à prendre le départ du 1500 mètres au jeu du Commonwealth en Nouvelle-Zélande. Hier, dans la finale du 800 mètres, Coe n'était arrivé que 6e. Il neige au Japon et en Corée du Sud. Beaucoup trop, même. On signale des dizaines de morts et des centaines de blessés dans les deux pays. Au Japon, le Bullet Express, le TGV, a dû baisser de régime de 210 km/h à 170 km seulement. Et chez nous, la météorologie nationale annonce un temps partiellement nuageux avec des pluies intermittentes. Les températures prévues pour la nuit prochaine et la journée de demain, à Jérusalem de 5 à 11 degrés, Tel Aviv 9-17, Haïfa 8-16, Beersheba 7-16 et à Elat de 12 à 22 degrés. Et maintenant, deux communiqués. Le ministère de l'Intégration et l'Ordre des Avocats annoncent l'ouverture des inscriptions à un stage préparatoire, droit israélien et exercice de la profession d'avocat, en vue des examens d'admission au barreau au mois de juillet. Le stage débutera le dimanche 11 février 1990. Les cours auront lieu l'après-midi au 32 rue Yigal Alon à Tel Aviv. Pour tout renseignement, s'adresser à l'Ordre des Avocats, 1 rue Chopin à Jérusalem, téléphone 66 02 71. Le Centre Yaïr de Jérusalem et les amis d'André Néer vous invitent à assister à la conférence du Rav Eliyahu Tzini qui aura lieu le mardi 6 février à 20h sur le thème « Foi et science » dans l'œuvre d'André Néer. Renseignements, téléphone 02 633 070. Les heures de Shabbat, Jérusalem 16h37, 17h51, Tel Aviv 16h55, 17h53, Haïfa 16h45, 17h50, Beersheba 16h53, 17h52, et à Eilat 16h58 aujourd'hui, 17h57 demain.
Merci Bernard. Manitou, vous êtes né en Algérie, à Oran. Vous êtes d'ailleurs le fils du grand rabbin d'Algérie. Après des études de philosophie et d'ethnologie à la Sorbonne, vous vous engagez dans votre carrière d'éducateur. Elle débute dès 1946 et elle est jalonnée de succès et de création, puisqu'en effet, vous avez fondé le Centre universitaire d'études juives, c'est-à-dire le Centre Rashi de Paris, l'Institut Mayanot à Jérusalem, ainsi que les centres Yaïr en Israël. Avant votre alliance en 1967, vous avez été le directeur de l'école d'Orsay, le président de l'Union des étudiants juifs de France, le commissaire général des éclaireurs israélites de France. La création de ces différents centres d'études juives a-t-elle dans votre esprit répondu à un besoin du moment, à une renaissance de l'intérêt pour le judaïsme, ou bien au contraire, avez-vous cherché à forcer ce besoin?
Eh bien, écoutez, ce sont les deux choses à la fois, mais je crois que l'accent doit être mis de manière un peu plus impersonnelle sur le deuxième point. Il y avait un besoin, les événements nous ont menés à forger toute une série, je dirais, tout un réseau éducatif juif radicalement nouveau qui n'existe pas, qui n'existait pas dans l'ère culturelle francophone juive jusqu'à la guerre mondiale. Il y avait une transmission de la tradition qui se faisait surtout par des canaux, par des vocabulaires, des véhicules, je dirais, piétistes d'un côté, ou d'un autre côté, scientifiques abstraits, très rares d'ailleurs, parfois de grande qualité. Mais il n'y avait rien qui puisse transmettre de génération en génération une identité juive qui puisse non seulement se confronter, mais se relier, s'intégrer à la contemporanéité de la culture générale de chaque époque. Or, il est bien évident que si notre tradition a pu traverser les siècles et les millénaires, c'est qu'au moment où cela a été nécessaire, on avait toujours trouvé les ressources pour parler le langage du temps, sans en rien abandonner du contenu des valeurs, mais en donnant une expression qui puisse toucher, et en particulier en diaspora, ceux des Juifs qui ne possédaient pas les véhicules culturels hébraïques qui sont les fondements même de notre tradition depuis le temps des prophètes. Je crois qu'il faut reconnaître au mouvement des éclaireurs en particulier ce mérite d'avoir mis sur pied ce réseau éducatif dont je parle, et il faudrait énormément de temps pour vous en donner un bilan. Et il me suffirait de dire que l'essentiel était d'avoir forgé un vocabulaire de trait d'union entre les valeurs de la tradition juive et la culture occidentale de formulation française que nous connaissions à l'époque.
Justement, je voulais vous poser une question à ce sujet, Manitou. Je voulais vous demander si votre enseignement est influencé par les idées maîtresses de la Révolution française, si votre judaïsme est une résultante de la tradition juive et de la République française, puisque vous, je l'ai dit tout à l'heure, vous recevrez dans 10 jours le prix du président de la Knesset, justement pour votre apport aux droits de l'homme et au peuple juif.
Bien, nous avons rencontré ce que j'appellerais le visage français de l'universel humain, mais nous avions, du point de vue de notre propre tradition spécifique, un lien à l'universel qui nous vient déjà du temps des Hébreux. Et pour ceux qui connaissent plus profondément que superficiellement le récit de la Bible et l'enseignement des prophètes hébreux de la Bible, il est bien évident que ce n'est pas un mystère que lorsque la Révolution française a donné, et c'était vraiment un cadeau assez généreux, a donné la citoyenneté pour la première fois dans l'histoire de cette époque, de cette longue époque d'exil aux Juifs en France, qu'il y ait eu un tel engouement, d'acceptation, de jouer ce jeu d'une relation à une manière d'être l'homme contemporain qui était l'homme de culture française. Et cela nous a beaucoup aidé à pouvoir mieux comprendre qui étaient les non-juifs qui nous environnaient. Il est bien évident que cette problématique de l'éducation juive a des niveaux différents en diaspora et en Israël. Mais malgré tout, je crois que l'apport de ce que a connu la génération des Juifs de France qui ont accédé à la culture française après la Révolution en particulier, ça existait déjà avant, mais au niveau de la communauté, a été considérable pour tout ce que, depuis ce temps-là, l'enseignement juif dans le monde contemporain représente. Et il y avait une dimension de la tradition philosophique et culturelle française dont nous étions responsables. Et que, depuis quelques années, la société israélienne connaît, à travers d'ailleurs différents canaux, qu'il me serait trop long de citer, de définir, et qu'elle commence à apprécier. Le fait que les contenus culturels juifs francophones aient une allure, un style, et parfois même des catégories assez différentes de ce qui peut se passer dans les communautés juives anglo-saxonnes ou germanique ou slave, est déjà reconnu et apprécié, et je crois que c'est extrêmement important.
Est-ce qu'il y a des mouvements parallèles aux vôtres, justement, dans les pays anglo-saxons?
Certainement, mais je voudrais surtout mettre l'accent sur la spécificité que représente ce que Emmanuel Levinas appelait un jour l'école de France ou l'école de Paris. C'est une aisance vis-à-vis des idées générales, des catégories de la rationalité intelligible et pas seulement formelle, qui manque peut-être, ou en tout cas qui se trouve à un degré moindre, dans d'autres courants culturels juifs.
Alors Manitou, je voudrais revenir à votre personne, à votre identité. Vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas être éducateur, vous ne vouliez même pas être rabbin. Vous vous êtes fourvoyé en quelque sorte?
Non, je me destinais pendant ma jeunesse à être universitaire et j'étais attiré par la philosophie des sciences. Mais c'est la réalité historique qui m'a mené à devenir éducateur par le fait que j'ai fait partie d'une génération de rescapés de la guerre qui a été pratiquement mobilisée par les mouvements de jeunesse. Il y avait à reconstruire les communautés et en particulier dans le secteur de l'éducation. Et c'est ainsi qu'immédiatement après la guerre mondiale, j'ai participé à la première promotion de l'école des cadres d'Orsay qu'avait fondé Robert Ramson, lui-même fondateur du mouvement des éclaireurs en 1922. Et puis, il y avait un tel besoin que nous avons été pris par le courant. Et une fois inséré dans un courant de ce type, dans une vocation de ce type, c'est difficilement réversible. Et alors, j'attends le temps où j'aurai le loisir d'approfondir un peu plus mes recherches universitaires, un peu plus mes études rabbiniques. Je ne sais pas si ce temps arrivera, mais quoi qu'il en soit, mon travail d'éducateur m'oblige à rester très au courant de ce qui se passe dans la philosophie et de ce qui se passe dans les études talmudiques.
En tout cas, Manitou, votre carrière d'éducateur a trouvé son paroxysme et son paradoxe dans la fermeture du centre de Mayanot, fermé pour cause de succès, si je puis dire. Cette école était en effet destinée à former de futurs éducateurs dans la diaspora. Or, Mayanot a été fermée en 1988 parce que vos élèves, m'a-t-on dit, choisissaient toujours de rester en Israël au lieu de retourner en diaspora. Cela vous a fait plaisir ou cela vous a gêné?
Écoutez, avant de répondre à votre dernière question, je dirais que ce que vous dites là est un peu schématique, parce que ce sont dès les premières années, Mayanot a duré pendant 15 ans, dès les premières années, il était évident que la plupart, l'immense majorité des étudiants passés par Mayanot préféraient rester en Israël au moins pour quelques années, assurer leur insertion dans l'identité israélienne retrouvée, avant éventuellement d'occuper des postes, beaucoup en occupent d'ailleurs, dans l'éducation juive en France. Mais tout cela a été connu dès le début. En réalité, si Mayanot a été fermé, c'est pour des raisons objectives, de nécessité objective, de compression de budget à l'agence juive. Et d'ailleurs, c'est une décision qui a été prise unilatéralement, sans se référer aux instances de la communauté en France. Et nous avons été mis devant un fait accompli. Je dois vous dire que, là je réponds à votre question, bien sûr ça nous a fait à tous un choc, parce que c'était pratiquement pendant longtemps la seule institution des agents juifs pour les francophones, alors qu'il y en avait beaucoup pour d'autres communautés, et que cela risquait de manquer, mais surtout parce que cela représentait un type d'identité israélienne que je voudrais essayer de définir très rapidement. Sioniste religieux, mais dans un sens très précis. Ni national contre la Torah, ni fidèle à la Torah contre la nation. Vous savez que c'est un problème sociologique de la société israélienne assez grave, assez préoccupant, de cette cassure entre ces deux dimensions de notre identité. Et nous avons essayé non seulement de forger l'unité de ces deux dimensions, mais de témoigner du fait qu'elle était la seule cohérente et la seule acceptable vraiment pour ceux qui cherchent un sionisme religieux militant en tant que citoyen d'Israël.
Alors pour préciser votre pensée, est-ce que vous croyez que le sionisme passe forcément par le judaïsme religieux mais non orthodoxe? Êtes-vous en quelque sorte contre un sionisme laïque?
Écoutez, je vous dirais que les termes devraient être définis. Je vais essayer de le faire très rapidement. Alors, je crois que le sionisme, en définition très simple, c'est un mouvement national. Et il n'a a priori à être ni laïque, entre guillemets, ni religieux, entre guillemets. c'est la nation d'Israël reprenant conscience de son identité de peuple, mais reliée à sa terre, prenant conscience de la nécessité, c'est un autre chapitre et j'y fais simplement allusion, de la nécessité de mettre fin à l'aventure de l'exil, de reconstruire la nation hébraïque dans le temps contemporain, 2000 ans après. Et donc, le problème de l'option religieuse ou non religieuse est un problème second, intérieur à la prise de conscience sioniste, ainsi définie. Ceci dit, le terme de laïque est très gênant dans le vocabulaire qui concerne la société juive. C'est un terme qui a un sens très précis dans la société chrétienne. Dans la société chrétienne, il y a d'un côté les prêtres et les religieux, les moines, et de l'autre côté ceux qui ne sont pas prêtres ou religieux, moines, et que l'on nomme laïcs en langage chrétien. Ça ne signifie pas du tout que ces laïcs-là ne soient pas à l'échelle de leur vie privée, et parfois le sont de façon très intense et très fervente, religieux.
Mais revenons au judaïsme.
Revenons au judaïsme. Il y a deux niveaux à distinguer, l'échelle individuelle et l'échelle collective. Pour ma part, je crois que le problème le plus préoccupant aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'éducation juive, c'est pas tellement ce que serait un sionisme dit laïque, c'est ce que serait une religion juive non sioniste.
Nous allons passer maintenant, Manitou, si vous le voulez bien, à ce qui se passe dans le monde. La libération de Nelson Mandela, le réveil des peuples, la fin du communisme, le retour des nationalismes, l'histoire c'est devenu un cliché, est en marche. Mais lorsqu'on vit ces moments, on ne peut s'empêcher de se poser des questions et de chercher des réponses. Quelles sont les vôtres, Manitou ?
Mais écoutez, d'abord la manière d'approcher la question. Il est indéniable que nous vivons ces mois-ci, et donc aujourd'hui, avec la nouvelle que vous venez de citer, une nouvelle étape, une sorte de marche vers l'universel qui a déjà commencé. Qui a déjà commencé dans les dernières générations, mais qui traverse beaucoup de difficultés. Et alors, il y a une espérance du passage à l'universel, je veux dire, de la liquidation de l'histoire de l'impérialisme. Parce qu'il y a une différence certaine entre la tendance à l'universel et puis son échec dans l'impérialisme et le cosmopolitisme. Et il me semble que tous ces bouleversements qui s'annoncent, en Europe en particulier, et cet achèvement de plus en plus approfondi de la décolonisation, par le fait même qu'ils sont parallèles à des bouleversements très profonds dans la structure du peuple juif, montrent une convergence que je ne peux pas, en tout cas personnellement, ne pas nommer de l'ordre de l'espérance messianique. Il y a là un programme et une programmation qui prendra énormément de temps, avec énormément de difficultés sans doute, et d'échecs qui jalonneraient les succès. Mais il est indéniable que nous vivons un temps où cette espérance s'est remise en marche. J'y vois essentiellement cela. La tendance à l'universel a repris vie.
Et aussi le retour au mysticisme.
C'est assez lié. Mais voyez-vous, il faudrait distinguer, en tout cas à l'échelle de l'expérience individuelle de ce retour au mysticisme, entre ce qui concernerait l'équation psychologique individuelle et d'autre part la véritable recherche des sources profondes de l'authenticité humaine. En tant qu'éducateur, je dois dire que nous avons souvent l'expérience que c'est très mêlé, et qu'il faut beaucoup de patience et de sagacité, de perspicacité, pour deviner ce qui, dans une tendance de retour au mysticisme, ou d'aller vers le mysticisme, ressort du rabbin ou du psychiatre.
Est-ce que, je m'excuse de poser cette question juste après ce que vous venez de me dire, mais il nous reste très peu de temps pour en parler. Où est votre place d'initiateur au judaïsme auprès des non-juifs et en particulier auprès des Africains? Nous savons que vous avez joué un certain rôle dans la reprise des relations entre Israël et le Cameroun, et vous êtes un ami du président Paul Biya.
Eh bien, écoutez, le temps que nous vivons est un temps de découverte pour les nations non-juives de la Bible hébraïque. Subitement, on s'aperçoit qu'on n'avait pas lu la Bible hébraïque. On avait lu des traductions, mais qui dirigeaient le lecteur vers d'autres sensibilités. Et en fait, subitement, on découvre en même temps qu'Israël n'est pas un peuple mythique, qu'Israël de la Bible, c'est peut-être les Juifs, c'est certainement les Juifs, et que ces Juifs, eh bien, vivent à Jérusalem, sur terre, et non pas dans des concepts purement mythique plutôt que mystique, que l'on situerait dans un ciel spirituel. Et c'est un choc très profond pour la conscience des non-juifs.
Manitou, je suis obligée là.
C'est là que que serait lieu votre question?
Qu'intervient votre rôle auprès du président du Cameroun, Paul Biya? Manitou, merci beaucoup d'être venu à notre studio. Il me reste à vous souhaiter un Shabbat Shalom ainsi qu'à nos auditeurs, à qui je rappelle qu'ils sont à l'écoute de Col Israël, la voix d'Israël, émettant de Jérusalem.